Martin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Midi 37, exactement. Saviez-vous que le Patrol Lapin est de retour pour Pâques? Offrez à vos employés une reconnaissance chocolatée en vous procurant des Patrol Lapins du Patrol Rocamadour, une campagne qui existe depuis 1978. Hey, j'en ai déjà vendu quand j'étais adolescent. Chaque année, la vente des Patrol Lapins est un moment attendu, du chocolat, des prêts à gagner, mais surtout une façon simple de redonner, car tous les fonds récoltés permettent de soutenir les activités des Patrols en entier. On vous invite donc à visiter le patrolapin.com pour passer votre commande et offrir le bonheur. Plus d'offres de sport, plus d'offres de loisirs, plus d'offres en entraide dans les différents patros de votre quartier. Il y a même des prêts à gagner d'une valeur de 5 000. Ben oui, ma blonde a gagné 1 000 $ au IGA l'année passée.
Ah, mais, c'est un peu méconnu malgré tout. Fait que c'est beaucoup de chances de gagner.
Ben oui, exactement. Donc, croquer le Patrol Lapin, encourager les patrols, surtout le Patrol Rocamadour qui a été victime là, avant la période des fêtes d'un incendie. Alors, patrolapin.com.
On achète déjà du chocolat pour Pâques. Moi, je l'achète toujours au Patrol Lapin depuis que c'est revenu. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Puis, tu donnes du chocolat d'abord, pourquoi pas le faire pour une bonne cause, puis peut-être même gagner comme ta blonde.
Exactement. Donc, donner généreusement à la grande famille des patrols. À la météo, averse de neige, moins 3 degrés. Poudrerie par endroit, vent du sud-ouest à 30 km/h. C'est une température stable à moins 3 degrés. Pour cette nuit, ce soir et cette nuit, ça sera quelques averses de neige cessant en milieu de soirée. Demain, c'est généralement ensoleillé à moins 1. Neige intermittente pour samedi à moins 1 et 1 degré pour dimanche. Quel est le résultat présentement au niveau des pannes d'électricité, Pascal, dans le Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches?
Oui, bien la grande majorité des pannes devraient être réglées d'ici 23 heures. C'est ce que le premier ministre François Legault a affirmé en point de presse ce matin. Point de presse qui était aussi relié aux informations d'Hydro-Québec. Fait qu'on peut s'y fier. C'est environ 145 000 ménages là, dans la province qui sont toujours privés d'électricité. Sinon, Chaudière-Appalaches, je sais pas ce qui se passe dans Chaudière-Appalaches, mais on est passé de 9 000 pannes à 11 000. On est revenu au constat de ce matin. Alors, on voit que ça grouille dans le secteur de Chaudière-Appalaches. C'est vraiment là où c'est le plus touché dans notre grande région. Pour la capitale nationale, la situation s'améliore là, petit à petit. On est rendu à quelques plus de 600 adresses en courant, majoritairement dans la Jacques-Cartier et l'ouest de la ville.
En actualité, il y a un chauffeur qui demande d'être libéré, et ça de mémoire, alors qu'il a tué une famille et qu'il en était à sa 7e balloune.
C'est un chauffeur qui a décimé une famille de Beauport en septembre 2021. Là, il demande une permission de sortie sans escorte. C'est Éric Légaré, il a 48 ans aujourd'hui, et ce matin, il demandait, pendant une audience auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, une permission de sortie pour rapports familiaux et perfectionnement personnel. Demande-moi pas plus d'infos, Jeff. On n'en a pas. Ce qu'on sait, c'est que le verdict devrait être rendu d'ici 15 jours. Je vous rappelle, effectivement, Légaré a écopé de 16 ans de prison pour avoir tué 4 membres d'une famille en état d'ébriété et roulé à 130 km/h sur le boulevard Dufresne-Montmorency dans une zone de 70. Il est rentré de plein fouet dans ces véhicules-là qui attendaient pour tourner à la lumière à gauche. James Fletcher, 68 ans, sa fille Shelley Fletcher, le mieux, 44 ans, et les deux petits-enfants, Emma et Jackson, le mieux et Fortin, 10 ans, 14 ans, ont été tués. On se rappelle, je pense que ça nous a tous saisis, puis on va s'en souvenir longtemps. Bruno Marchand veut porter plainte. Le maire de Québec accuse le courtier immobilier de Via Capital, Simon Laberge, d'être allé trop loin en utilisant les termes « malade mental » dirigés vers lui dans une vidéo sur TikTok. Le Journal de Québec affirme que la vidéo d'opinion porte sur le projet de tramway, mais elle était retirée des réseaux sociaux. À l'écoute, il n'est pas clair si le courtier dit « en malade mental » ou « à un malade mental ». Le sous-titrage affiché dit « à un malade mental ». On n'a pas répondu du côté du courtier immobilier, mais c'est à suivre. Les salaires des hauts dirigeants des grandes banques canadiennes sont en hausse l'an dernier. Leur rémunération a bondi de plusieurs millions de dollars. La volatilité des marchés a permis aux institutions financières d'encaisser de forts profits. Fuite de données aussi chez Under Armour. Les renseignements de plusieurs millions de personnes, soit des clients, sont compromis. C'est un tiers non autorisé qui a obtenu certaines informations personnelles de clients. La fuite de l'automne dernier touche des Québécois. On ignore combien sur les 72 millions d'adresses courriels touché. L'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, prenait la parole publiquement pour la première fois ce matin. Il a affirmé vouloir venger les victimes de cette guerre-là, qui est prêt à livrer une guerre d'usure pour détruire l'économie mondiale. Jeff, ce matin, je lisais et j'ai apporté l'information ici là, pour nos ondes qu'il y a certaines des bombes qui sont utilisées contre l'Iran qui coûtent plus d'un demi-million chacune. Puis les missiles qui sont interceptaires, ça peut coûter 3 millions de dollars par tir. Le chiffre, ça a été dévoilé par le Pentagone, par exemple. Il inclut pas les coûts associés à la préparation de l'attaque. Donc, le montant final, là, en réalité, ça peut être beaucoup plus élevé.
13 milliards de dollars que Victor Henriquez nous racontait tout à l'heure dans le caucus. Ça sera disponible sur le blvd.fm. Et c'est pas terminé. Et les Américains ont voté pour Donald Trump en pensant qu'il ne ferait pas d'intervention armée du genre.
Le prix du baril de... du baril de pétrole a repassé la barre des 100 $ américains aujourd'hui, malgré l'intervention de plein de puissances sur le marché. Donald Trump, sans parler président des États-Unis, a justifié à nouveau son offensive et juge que c'est beaucoup plus important à ses yeux d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire que de se soucier du prix du pétrole. Ça fait réagir aux États-Unis. Puis toujours dans cette guerre au Moyen-Orient, il y a un camp militaire canadien qui a été touché au Koweït, un camp des forces armées canadiennes, et c'est une attaque de missiles iraniens au début de la guerre au Moyen-Orient qui a produit cette destruction-là. Et on révèle que c'est grâce à une enquête de La Presse qu'on est au courant. Donc, c'est un bunker qui est situé à proximité des installations canadiennes de la base aérienne d'Ali Al-Salem qui a été endommagé lors de cette frappe-là du 1er mars. Mais on n'avait pas d'informations. On vient de l'apprendre.
Et justement, pour en parler avec nous, on a Éric Ouellet, notre spécialiste en conflits militaires et surtout professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci de participer en jase aujourd'hui.
Bonjour, oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Éric, pourquoi on a caché cette attaque-là sur une base militaire canadienne au Koweït, selon toi?
Il peut y avoir quelques raisons là-dessus. Une, c'est peut-être parce que le gouvernement voulait pas se sentir forcé de s'impliquer dans le conflit. Je doute que ce soit vraiment la raison. L'autre raison, ici je spécule, j'ai pas d'informations précises là-dessus, mais c'est peut-être l'édifice en question qui est utilisé par les forces d'opérations spéciales. Et tout ce qui touche les forces d'opérations spéciales, c'est toujours hautement classifié. Et c'est peut-être une raison qui me semble plus plausible.
OK, donc on ne peut pas s'inquiéter d'un contrôle de l'information si c'est contrôlé. C'est des raisons là, assez importantes pour ne pas trop se poser de questions.
Tout à fait. Tout ce qui est classifié selon la loi là, sur les secrets officiels, le premier ministre lui-même n'a pas le droit d'en parler publiquement, donc à moins que ce soit déclassifié. Et donc, je spécule, là, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il faut se rappeler que les forces spéciales canadiennes continuent d'aider les milices kurdes dans le nord de l'Irak à s'entraîner et à aussi améliorer la gouvernance de la région. Et la base au Koweït est un point d'appui important pour supporter cette mission.
Parce qu'à l'heure actuelle, vous comprendrez qu'on se pose un peu de questions sur la validité de l'information, mais aussi la transparence de certaines informations. Quand on voit le président des États-Unis, Donald Trump, en retenir, en peut-être changer, puis surtout réaffirmer que « Ah non, ça, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être pas si dans l'attaque contre une école iranienne. » On veut avoir une transparence encore au Canada sur ce qui se passe.
Oui, mais je pense que le gouvernement a été relativement transparent, là, dans le cas d'un édifice précis qui aurait été endommagé soit par une frappe directe, soit par un débris qui est tombé, et que c'est un édifice qui est utilisé pour des opérations classifiées en Irak, je pense que c'est un cas qui est... On peut leur pardonner, si vous voulez. Je peux me permettre l'expression.
Pour rappel, on parle avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire. Éric, qui dit vrai? Donald Trump qui dit « La guerre va finir bientôt. » L'Iran qui dit « Je suis armé et je suis prêt à me battre jusqu'à la dernière goutte de sang et je suis prêt pour me battre pendant 6 mois. »
Oui, ben ça c'est la logique de tout conflit militaire. Hein. C'est deux volontés qui s'affrontent et puis... ultimement, c'est le premier qui va flancher, qui va perdre la face au minimum. Là. Et donc, en ce moment, on est vraiment dans un conflit qui va continuer pendant un bon bout de temps. Monsieur Trump a pas vraiment de façon de sortir du conflit en survant la face. Et les Iraniens, le régime iranien non plus. Donc, les combats vont continuer jusqu'à temps qu'il y ait une porte de sortie quelconque qui soit développée pour que les gens sauvent la face. Peut-être que M. Trump va aller jusqu'au bout, il veut un changement de régime, mais je pense que les autorités militaires et politiques américaines ont compris que ça sera peut-être pas facile à faire.
Mais comment on peut s'en sortir sans nécessairement briser les égaux de ces dirigeants-là? Parce que c'est une guerre qui a été qualifiée de possiblement d'usure de la part du nouveau guide suprême iranien aujourd'hui. Il a dit, moi, il n'y a pas de problème. Je continue jusqu'à temps qu'on soit tanné. Au niveau de l'économie mondiale, je peux et je veux la détruire. Ça va être difficile de trouver une solution. Envoyez-vous pour que ça cesse?
Ben, écoutez, le nouveau dirigeant iranien, il fait aussi un peu le gonflage de torse. Là. Ça fait partie de l'expression politique normale. Mais le pays et le régime est lourdement endommagé aussi. Il va peut-être arriver à un point où ils ne veulent plus être endommagés. Et les Américains vont vouloir une porte de sortie. Donc, il va peut-être avoir un début de négociation, une piste diplomatique qui va s'ouvrir. Ça pourrait être quelque chose de l'ordre... écoutez, si vous arrêtez de nous attaquer, vous, les Américains, on va mettre fin complètement à notre programme d'enrichissement nucléaire. Et là, ben, les deux parties trouveraient un terrain d'entente au moins minimal là, pour arrêter les opérations militaires. Mais on n'est pas rendu là encore, ça c'est clair.
En attendant, Eric, quoi s'attendre dans le détroit d'Ormuz? Parce que hier, il y a trois bateaux, il y a trois pétroliers qui ont été attaqués, qui ont pris feu. Est-ce qu'il va y avoir encore des attaques de ce type dans les prochains jours?
Oui, je pense qu'il va y en avoir encore parce que, bien entendu, faire monter le prix du pétrole, c'est le moyen principal de l'Iran de combattre les Américains et les Israéliens par des moyens politiques, plus que, disons, des moyens indirects. Mais et les Américains doivent en ce moment faire une recherche très, très active des sites de lancement de missiles antinavires dans la région. Et il y a peut-être aussi des mines sous-marines qui ont été installées. Là, il y avait un rapport de CNN, si je m'abuse, qui disait ça. Donc, ils vont vraiment essayer de préparer le terrain avant de faire une escorte de navires, parce que c'est très dangereux aussi pour les navires américains. Donc, ça va continuer. Peut-être les Américains vont être capables de déployer leur marine parce que la zone est devenue plus sûre en détruisant là, les sites de lancement.
Oui, effectivement. On apprenait hier que pour les militaires américains, on s'était positionné dans le fait de pouvoir détruire ce qui est un peu iranien dans le coin du détroit d'Ormuz pour essayer de faire recirculer les choses, mais du moins que ça soit plus sécuritaire. Mais la situation est quand même critique, là. Il y a des gens qui y sont coincés, il y a des cargos qui n'ont rien à voir dans tout ça, qui attendent avant de circuler dans certaines eaux sur le territoire. L'Iran semble pas nécessairement avoir de barrières, peu importe qui. On déstabilise, on tire. Est-ce que la façon de faire la guerre a définitivement changé cette fois-ci?
Ben écoutez, le pétrole, bloquer le pétrole international, c'est vraiment le seul outil que l'Iran a. Donc, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Parce que ça peut créer des pressions autant à l'intérieur des États-Unis que les autres pays du monde mettent des pressions sur l'administration Trump. C'est vraiment leur seule carte forte dans leur jeu. Et pour les pauvres marins là qui sont pris là-dedans, c'est possible qu'il y ait une opération humanitaire soit organisée par les pays du Golfe là, pour aller chercher les marins sur ces navires-là et puis laisser les navires ancrés là, jusqu'à temps que les choses se calment. En ce moment, là, il y a très, très peu de navires qui osent prendre le détroit d'Ormuz. L'autre question aussi, c'est que, vu que c'est une situation de guerre, habituellement, les compagnies d'assurance maritime n'assurent plus les navires. Donc, si un navire est touché par un missile iranien, la compagnie qui est propriétaire n'aura pas de remboursement. M. Trump avait flatté l'idée qu'il allait assurer, les États-Unis allaient assurer eux-mêmes là, les navires, mais il n'y a pas eu vraiment de mouvement dans cette direction-là.
Éric Ouellet est notre spécialiste en conflits militaires et surtout professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci beaucoup pour ta participation et on se reparle certainement la semaine prochaine.
Parfait, merci et à la prochaine.
Salut Éric. Éric est un spécialiste qui nous explique toujours bien ce qui se passe en ce temps de guerre en Iran.
À Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. jusqu'à 14h, on en jase.
On